Les briques en Bresse, le pavé dans la mare.
Avec Briques et Pavés, l'émission qui dégrange.
Bonjour, vous êtes bien sur les ondes de Radio B avec
Émilie,
Florine,
Babouche,
Franck
et Philippe.
Et Cathy, une émission collective à géométrie variable des bénévoles de la Grange aux Parapluies, association atypique et espace de vie sociale qui vous propose tous les mois un éclairage sur un thème qui nous tient à cœur. Pour notre deuxième émission, c'est le don. Donner, c'est remettre. Offrir quelque chose à quelqu'un, c'est aussi produire, fournir, comme par exemple des pommes pour le pommier. C'est un ordre qui peut être donné, on dira ordonné. Donner peut aussi signifier à côté, comme dans la phrase « la ville donne sur la campagne » ou inversement. Donner, donner, avoir un don, c'est être talentueux, doué. Bon, aujourd'hui, on interroge le don, vous l'avez compris. Au sommaire de cette émission, le don de soi ou d'une partie de soi, le bénévolat, le glanage, la prescription du beau et des chansons subtilement sélectionnées. Et aussi dans cette émission, un micro-trottoir. Nous avons demandé à des enfants de nous expliquer certaines expressions telles que donnant-donnant, donner sa langue au chat.
Bonjour Léane, pour toi ça veut dire quoi donner sa langue au chat? T'as donné ta langue au chat? Faudrait filmer. Bonjour Malo, pour toi ça veut dire quoi donner sa langue au chat?
Bah donner sa langue au chat.
Et une fois qu'on a donné sa langue au chat, on fait comment pour parler?
On donne sa langue et à son chat.
Ça veut dire quoi donner sa langue au chat?
Donner sa langue au chat, ça veut dire quand tu sais pas un truc, tu donnes ta langue au chat, c'est genre tu demandes la réponse.
Tu connais quoi comme expression avec le mot donner?
Donner des ailes, donner toute latitude, donner un coup de téléphone, donner c'est recevoir.
D'accord. Et si je te dis donner sa langue au chat, ça veut dire quoi?
Ah, c'est quand on sait pas.
L'essai sur le don de Marcel Mauss, paru en 1924, est le texte le plus célèbre de cet anthropologue. L'auteur montre que le don est obligatoirement suivi d'un contre-don, selon des codes préétablis. Don et contre-don articulés autour de la triple obligation de donner, recevoir, rendre, crée un état de dépendance. Selon Marcel Mauss, le don est un phénomène commun à toutes les sociétés humaines, passées et présentes. C'est une morale universelle et éternelle. Marcel Mauss affirme que la société n'est pas quitte envers les travailleurs qui lui ont donné leur vie. Elle doit donc leur donner les moyens de vivre décemment, en période de vieillesse et de chômage. Pour lui, le travail salarié doit être au centre de la solidarité sociale, comme, je le cite, un don qui appelle une contrepartie au-delà du seul salaire. Cette logique a donné naissance au système de la sécurité sociale française, et les analyses de Marcel Mauss ont donc une portée très contemporaine, un siècle plus tard.
C'est très intéressant, Franck. Mais dis-nous, quelle force y a-t-il dans la chose qu'on donne qui fait que le donataire la rend?
Selon Marcel Mauss, Cathy, c'est dans la chose donnée que se trouverait la force qui contraint le donataire à la rendre. Les choses échangées seraient dotées d'un esprit, dit-il. Le contre-don permet de rendre hommage au donateur et d'éteindre la dette.
Okay.
Marcel Mauss a également travaillé sur les échanges de politesse, en tentant de montrer le caractère obligatoire de l'expression des sentiments. Il explique que l'obligation n'enlève rien à la sincérité, ni à l'intensité des sentiments. Alors pour finir, le principal enjeu de son essai sur le don, c'est la critique de l'aumône, qui est le type même du don sans retour, et qui est humiliant pour les plus pauvres, puisqu'ils ne peuvent pas rendre. C'est pourquoi Marcel Mauss propose de sortir la politique sociale du modèle charitable pour la rendre acceptable. Il soutient un projet de redistribution des richesses, définitivement affranchi de l'humiliante charité. Et nous ici, aussi autour de la table, nous préférons la solidarité à la charité.
Oui.
Le temps c'est de l'argent, et l'argent c'est du vent. Les temps sont durs maintenant, on n'est jamais sûr d'arriver à temps.
Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps pour cette chronique. Le bénévolat m'attend. Entre vie de famille, monde professionnel et un lieu tierce, pour ne pas dire un tiers-lieu que serait une asso, je ne vois ni comment ni pourquoi je dégagerais du temps. Le temps, c'est précieux, oui.
Le temps, c'est de l'argent. Non. Le temps de vivre est beaucoup plus important que les billets.
Et mon temps de bénévole dans tout ça, c'est quoi ? Du brin ?
Tiens, en parlant du brin, la toute nouvelle monnaie locale en Bresse, sans bénévoles, elle n'aurait jamais pu voir le jour. Et oui, car malgré un soutien inconditionnel de nos élus, allant même à se verser une partie, voire la totalité de leur rétribution en brin, tout cela n'aurait pas été possible sans une poignée de bénévoles très actifs. Cousin Hub, si tu nous entends, dédicace.
Le temps, c'est de l'argent, ok. Et le bénévolat dans tout ça ? Un état des lieux sur le bénévolat en France, réalisé en 2017 par le Laboratoire d'économie et de management de Nantes Atlantique, en partenariat avec l'Université de Nantes et Centre de recherche sur les assos, conclut que 22 millions de personnes donneraient en moyenne 75 heures par an de bénévolat, soit 1 650 millions d'heures. Ramené au taux horaire au SMIG brut, 10,25 €, cela nous donne la modique somme de 17 milliards d'euros. 17 milliards, pour mieux se représenter, c'est l'achat de 97 avions de chasse Rafale. Dassault, prépare les bons de commande, les assauts rentrent en guerre.
Et merci Babouche de terminer sur cette notion de guerre qui nous rappelle que de nombreux réfugiés quittent leur pays à cause des conflits et des problèmes climatiques qui augmentent. Alors comment nous, occidentaux, nous donnons de la place à ces personnes migrantes ? Comment est-ce que nous donnons le droit à des personnes en grande difficulté de passer nos frontières ?
Alors pour répondre à ta question, Émilie, il existe ces assos qui permettent de donner de la dignité en les accueillant et en leur donnant une place chez soi, dans un foyer et dans la société.
Et oui, Babouche. Donnons une place et donnons du temps pour celles et ceux qui en ont besoin.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez.
Allez, notre prochain thème, tout aussi intéressant, est « Pourquoi jeter plutôt que donner ?»
Alors, est-ce qu'on aurait le temps pour une petite devinette ?
Oh, tu me fatigues déjà.
Alors, que suis-je ? Je pourrais être un projet de loi voté par les députés et sénateurs hommes qui proposerait de rémunérer grassement ce don. Il est souvent en tête d'affiche des films classés X. Ce don n'est pas réservé qu'aux branleurs, même s'il les favorise. Je suis...
Le don de sperme !
Allez, on enchaîne !
Alors, en France, nous préférons jeter, casser, plutôt que donner.
Sûrement dû au fait que notre esprit de surconsommateurice l'exige. Conditionné par notre modèle économique, je me vois encore l'autre jour à la déchetterie. « Bonjour, pourrais-je récupérer le vélo dans la benne tout venant ?» Réponse.
« Bien sûr que non, c'est interdit, c'est déjà dans la benne et ça y restera. »
Et quand bien même tu arriverais en même temps que le mec ou la meuf qui s'apprête à jeter le vélo rose qu'ils ne veulent pas donner à leur fils, alors qu'il est en super état, t'arrives gentiment avec un beau sourire et demande « Ce serait possible de le récupérer pour mon fils ?» Et là, paf ! Tu te retrouves dans une situation improbable quand la personne te dit
« Je peux vous le vendre si vous voulez. » À quel moment le cerveau du mec ou de la meuf vrille, passant de l'état hyper écolo à hyper capitaliste ? À quel moment tu peux dire « Je vais lui donner du pognon contre mon vélo rose » alors qu'au départ, t'es juste parti pour remplir une benne qui fera un poids supplémentaire de la facture que tu retrouveras dissimulé dans tes impôts locaux.
Peut-être devrions-nous nous inspirer d'un modèle simple expérimenté en Suède. Des murs destinés aux dons de vestes d'hiver, le concept ? une zone intérieure, couloir, hall, des porte-manteaux, une affiche pour communiquer. Si vous avez besoin, ces vestes sont à disposition. Ni charité, ni argent. Juste le... plutôt que de surproduire pour surconsommer.
Autant que ça serve à qui en aurait le besoin.
Le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait acheté d'un état et moi. Le pouvoir d'achat d'un état et moi. Le pouvoir d'achat.
Qu'est-ce que toi tu donnerais aujourd'hui?
Mon frère.
Frère, qu'est-ce que t'aimerais qu'on te donne?
Un chien.
Est-ce que t'as autant de plaisir de donner à quelqu'un que de recevoir de quelqu'un?
Oui.
Comment tu t'appelles?
Julia.
C'est Julia. Qu'est-ce que toi t'aimerais donner aujourd'hui?
Ma sœur.
Est-ce que toi t'as autant de plaisir à recevoir qu'à donner ou tu préfères recevoir que donner, toi?
Bah, je préfère recevoir.
Quand les gens y négocient, on dit bah, donnant-donnant. Hein. Donc pour toi, ça veut dire quoi donnant-donnant?
Parce que quand tu donnes quelque chose, et bah, l'autre il te donne quelque chose en retour.
Donc dans les négociations, finalement, c'est pas vraiment du don. C'est pas vraiment donné ou si quand même?
Bah, c'est donner ce que tu as envie de donner, mais il y a aussi de l'échange.
T'attends quelque chose en retour, alors.
Alors, si j'avais le pouvoir d'achat, j'achèterais de la malbouffe pour les filer aux pauvres.
Mais quoi? Qu'est-ce que t'entends par malbouffe, babouche?
On produit des trucs infâmes qu'on appelle nourriture. Je me refuse de manger ça. Mais on va quand même pas balancer toute cette nourriture. Alors j'achète et je la file aux assos, tu sais, celle présente à la sortie des grandes surfaces.
Non mais n'importe quoi, c'est horrible de dire ça. Tu ne peux pas donner des choses que tu ne mangerais pas ou que tu te refuses d'acheter.
Ben si, après je peux faire un effort sur les produits de meilleure qualité, de temps en temps. Mais ceux au rabais avec la DLC courte.
Ouais, c'est déjà ça. Les produits avec une DLC courte restent consommables. N'empêche que ton discours est vraiment pas soutenable. C'est horrible, voire nul, de donner des produits qu'on ne veut pas consommer soi-même à d'autres.
Effectivement, après je donne pour le sida.
Contre le sida?
Oui, bon, je donne contre le sida, mais c'est pas pour autant que je consomme.
Pff, mais tu me fatigues. Allez, à vous les studios.
Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai cinq doigts moi aussi, on peut se croire égaux.
Quand on pense aux dons, il me semble qu'on pense en premier aux dons matériels, les vêtements devenus trop grands, enfin trop petits. De même pour les jouets ou des livres lus et relus, le don de nourriture, d'ailleurs. Manger à sa faim ne devrait-il pas être considéré comme un acquis? Ces dons sont importants et incontournables. Mais il existe un don plus intime, plus corporel. D'ailleurs, ne dit-on pas donner la vie? Donner de son temps, le temps étant irrécupérable? Le don d'organes, du sang? Ces dons sont des morceaux de nous. Et ne sont-ils pas les dons les plus précieux et les plus sincères?
Oui. En France, le don du sang est fondé sur la générosité, mais seulement 4% des Français donnent leur sang. Régulièrement, l'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme sur les réserves qui atteignent des niveaux très critiques. Alors, la solution doit-elle passer par la rémunération des donneurs? Eh bien non. En France, le don du sang est un acte bénévole, volontaire. Un choix gravé dans la loi du 21 juillet 1952 et il doit le rester. Si aucun pays dans le monde n'a, pour le moment, fait le choix de la marchandisation du sang, certains tout de même rémunèrent les donneurs de plasma, et pas très loin de chez nous, en Suisse, en Allemagne et au Royaume-Uni. Alors en France, le don est équitable, tout le monde donne, peu importe son âge, son origine, sa catégorie socio-professionnelle, et cela doit le rester.
Réparer les vivants est une belle chose, mais il faut des pièces détachées. Vous l'avez compris, je vais vous parler du don d'organes. En matière de don d'organes, on est un peu sur l'adage « qui ne dit mot consent ». Depuis le 1er janvier 2017, un nouveau décret concernant le don d'organes et de tissus est appliqué en France. Ce décret modifie trois principes de loi bioéthique qui sont le consentement présumé, nous sommes tous donneurs d'organes et de tissus présumés, la gratuité du don et l'anonymat entre le donneur et le receveur. Les modalités de refus sont précisées. Pour refuser, on peut s'inscrire sur le registre national des refus, désormais possible en ligne. On peut faire valoir son refus de prélèvement par écrit et confier ce document daté et signé à un proche. Enfin, on peut communiquer oralement son opposition à un proche qui devra en attester auprès de l'équipe médicale. De plus, le refus peut désormais être partiel et ne concerner que certains organes ou tissus. Aussi, on est présumé donneur potentiel, sauf si on signifie son choix de ne pas donner. Cela se comprend sur le fond. Avant, certains dons ne se concrétisaient pas, faute de savoir explicitement si la personne souhaitait ou non donner. On imagine que dans la violence d'une mort accidentelle ou d'un décès subi, il est difficile pour les proches de se poser alors cette question face au flot d'émotions. Mais sur la forme, il y a quand même un côté contre-intuitif de demander à se manifester seulement si on est contre. Ce serait tellement plus beau et positif d'un point de vue humaniste d'écrire ou de faire savoir « oui, je veux bien ». Avec la réglementation actuelle, le don d'organes est un dispositif qui fonctionne plutôt bien et c'est déjà ça. Gardons-nous cependant de dériver vers la marchandisation des dons d'organes qui, comme le don du sang, essaye de s'immiscer dans des débats actuels, ici ou là. Nos 0,01% de très trop riches voient, comme dans le transhumanisme, le fait que l'immortalité pourrait s'acheter.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
La vie m'a dit ose-moi, reconnais-toi en l'autre, car l'autre est un autre toi. La vie m'a dit qu'elle était plus grande que tout ce que l'on croit. Abondant pour l'imaginosphère, elle m'a dit ma puissance est en toi. Fais le vide et retrouve la paix, le vide et retrouve-toi. Lumière divine, oui, bien plus grande que tout ce que l'on voit. Enfant oublié de notre terre, elle m'a dit le soleil est en toi. Et tout tourne autour du soleil.
Curcia d'Angallon, qui fait partie de la Haute-Bresse. 01-560, au dernier recensement, environ 440 habitants. L'une des communes la plus au nord du département de l'Ain. Cette commune s'appelle Curcia d'Angallon. Il y a un tiret entre les deux noms. Alors je me suis aventuré un jour à interroger Jean-Louis, né à Curcia, originaire de Curcia d'Angallon, en lui disant « Tiens, il y a eu la fusion à une époque de deux communes, Curcia et d'Angallon. » Je n'avais pas vu juste. Jean-Louis m'a expliqué qu'il ne s'agissait pas de la fusion de deux communes, comme cela arrive parfois. Il s'agissait de la commune de Curcia qui avait associé à son nom, effectivement, d'Angallon, dont on en parle aujourd'hui dans l'émission sur Radio B. Mais pourquoi d'Angallon ?
Curcia d'Angallon. D'Angallon, c'était, s'écrivait à l'école, on nous a dit que ça s'écrivait D-O-M, et le nom d'un prêtre qui s'appelait Gallon. Et le prêtre, c'était peut-être un dominicain, ou c'est pour ça qu'il y avait un don, D-O-M. Le reste, on n'en sait pas plus. Normalement, il y a une partie de la commune qui vient de son don, d'un vrai don de ce prêtre Gallon. C'est tout.
Jean-Louis, terrain vallonné, tu disais.
Oui, apparemment, c'était un terrain qui avait une bosse qui était beaucoup plus élevée que les autres. Alors, est-ce que c'était l'ancien château d'Auvernay? Parce qu'il y a eu un château Auvernay, et maintenant, il n'y a plus rien. On aperçoit, en vue aérienne, on aperçoit les anciennes fondations de la maison, du château. Mais pour l'instant, on ne voit plus rien. Je pense que c'est autour de l'époque Napoléon, quand Napoléon a les plans de toutes les communes, parce qu'il y a eu tous les plans de communes qui ont été faits par Napoléon.
Merci Franck pour ce magnifique reportage sur cette belle commune de Curcia d'Angallon en Haute-Bresse. C'est maintenant Fabrine qui nous fait découvrir une association qui prescrit du beau pour que nous allions tous mieux. À toi Fabrine.
Le don c'est partager. C'est faire pour et ou avec l'autre. C'est l'échange. Le don, c'est créer un espace commun avec l'autre. Le don peut donc être considéré comme une invitation. Et justement, je vais vous parler d'une association fondée par Laure Mailloux, psychologue, qui a pour nom l'invitation à la beauté. Tout un programme, me direz-vous. Psychologue, donc, Laure Mailloux et son association proposent une thérapie par l'empathie esthétique à travers ce qu'elle appelle des prescriptions culturelles. Ainsi, l'accompagnement qu'elle propose invite ses patients à aller se nourrir auprès d'œuvres artistiques. Tableaux, musique, chansons, livres, théâtre, poèmes, tout est possible. Ces prescriptions de beau créent la surprise et des opportunités pour prendre soin de soi et des autres. Ce sont des invitations à la contemplation. Ainsi, on peut soigner avec le beau.
Je t'offre des bouquets de fleurs en laine, des rideaux en papier, des lustres en porcelaine, un diamant en osier. Je t'offre tout le vent, le soleil à manger.
Les rescapés de l'attentat de Charlie Hebdo en témoignent. Pour survivre et vivre, ils ont eu recours au beau. Catherine Meurice, dans son ouvrage « La légèreté », raconte ses visites au Louvre, à la Villa Médicis. Philippe Lançon, dans « Le Lombeau », témoigne aussi. Il a eu recours à Proust notamment, pendant son long séjour à l'hôpital. L'art, le beau, permettent de vivre. Je trouve cette idée de prescription de beau absolument géniale et d'une merveilleuse générosité. Dans ces temps que certains disent difficiles, quoi de plus enthousiasmant que cette invitation ? Alors, invitons le beau et le bon à notre table, qu'il soit notre menu quotidien. Ouvrons notre table et partageons notre repas. Aujourd'hui donc, je vous propose au menu un petit livre qui fait voyager et s'évader. Ne vous fiez pas au titre. Il s'agit d'Encabané de Gabriel Filto Chiba. Bonne lecture.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours.
C'est quoi se donner de la peine?
Bah, c'est quand c'est difficile, c'est on fait un effort pour réussir à quelque chose.
C'est pas pour pleurer alors se donner de la peine?
Bah non.
Ne plus savoir ou donner de la tête, t'en penses quoi toi de cette expression?
Bah, c'est quand tu sais plus quoi faire, quand tu es débordé.
Et se donner des ailes, c'est une expression qui existe, ça veut dire quoi? Est-ce qu'un chat peut se donner des ailes?
Bah, s'il devient un oiseau.
Lison, c'est quoi pour toi donner un coup de téléphone?
Bah, tu peux appeler quelqu'un, donner un coup de téléphone, ou sinon tu peux frapper quelqu'un avec le téléphone.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Saint-Trier-de-Courte pour réaliser avec la Grange au parapluie l'interview lors de la remise des cadeaux de Noël en lien avec la Croix-Rouge. Et sans plus attendre, je vais poser quelques questions à Jean-René, qui, je crois, vient pour la deuxième fois, donc connaît un peu déjà l'initiative des boîtes de Noël. Jean-René,
Oui, alors c'est quelque chose qui m'a étonné la dernière fois, puisque je ne connaissais absolument pas, et où j'étais agréablement surpris lorsque j'ai ouvert mon cadeau, puisqu'il y avait plein de petits cadeaux très touchants, les uns comme les autres. Et ben voilà, ça m'a apporté la chaleur qui manque dans ma solitude. Voilà. Ça, c'est certain.
Eh bien, écoutez, Jean-René, joyeux Noël. En plus,
merci.
Il fait beau aujourd'hui lors de cette remise. Et puis, à très bientôt, j'espère.
Ben, à bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Nous retrouvons maintenant Michel, très nouvellement installé, je crois, sur le secteur de Saint-Trivier-de-Courte et qui est tout nouvellement aussi donc bénévole à la Croix-Rouge française et participante aujourd'hui effectivement à cette journée de dons pour les cadeaux de Noël de la Croix-Rouge et de la Grange aux Parapluies. Bonjour Michel.
Bonjour.
Donc vous m'avez dit que vous étiez tout récemment effectivement installé sur le secteur.
Depuis début septembre, oui.
D'accord. Et donc pour vous ça a été naturel effectivement de vous impliquer, de donner de votre temps,
tout
puisqu'on parle du don.
Tout à fait.
En venant à la Croix-Rouge, alors que vous aviez peut-être beaucoup de choses à faire en étant nouvellement installé.
Oui, mais bon, on trouve toujours du temps quand on veut faire du bien autour de soi et voilà.
D'accord. Bon bah c'est bien quelques jours de Noël d'entendre en tout cas des messages positifs comme
oui.
ça. En plus, il y a un grand soleil et un grand ciel bleu. Donc,
oui.
Bienvenue en Bresse.
Merci
joyeux
beaucoup.
Noël, Michel.
Oui,
et
merci.
Et puis, au plaisir
aussi.
De se recroiser.
Ben, j'espère. En tout cas, merci beaucoup.
Je suis maintenant avec Marie-Christine, donc bénévole à la Croix-Rouge. Et également, à ma grande surprise, nouvellement installée en Bresse. Donc, dès que les gens arrivent dans ce beau territoire de la Bresse, ils s'impliquent et ils donnent du temps. C'est votre cas, Marie-Christine.
Oui, c'est une chose que j'ai fait avec grand plaisir. Et j'avais du temps disponible par mon départ à la retraite. Et j'avais dit que je ferais partie d'une association. Et j'ai choisi la Croix-Rouge.
Ben, Marie-Christine, merci beaucoup. Merci. Et joyeux Noël aussi.
Merci beaucoup. Au revoir.
Donc voilà, toujours à Saint-Trivier-de-Courte sur le thème du don avec cette remise un peu spéciale de la Croix-Rouge et de la Grange aux Parapluies avant Noël. Je suis avec Anne-Marie qui donne depuis de nombreuses années du temps à la Croix-Rouge. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Donc voilà, votre parcours de bénévole et puis votre curiosité, votre goût pour le don, vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, moi je trouve que donner, ça va dans les deux sens. On donne... mais aussi on permet à l'autre de donner. C'est donner, recevoir. Pour moi, c'est très important. Aussi, moi, dans le don, c'est donner une part de moi-même parce que j'ai la chance d'avoir des compétences dans le secteur sanitaire et social. Je suis une ancienne éduc. Donc, je trouve que c'est important de mettre à disposition certaines de mes compétences au niveau relations, au niveau connaissance du dossier ou autre.
Je vous questionne sur le don et tout de suite, vous me dites... qu'en donnant, on reçoit, donc c'est un très beau message.
Comment je dirais, certains bénévoles qu'on a actuellement ne se sentent pas forcément prêts à passer du temps avec eux parce qu'ils se trouvent incompétents, parce que ceci, parce que cela. Enfin, ils se trouvent des tas de raisons qui leur font peut-être un peu peur aussi de se retrouver avec des gens fragiles, financièrement, psychologiquement, et qui ne sauraient pas quoi faire. Alors qu'en fait, on peut être tout simplement là, présent.
Cette émission de radio sur le don vise aussi à donner envie aux gens
peut-être,
de
oui.
vous rejoindre, de rejoindre la Grange aux Parapluies.
Oui, puis chacun donne avec ce qu'il est.
En donnant, on reçoit. Et je trouve qu'à quelques jours de Noël, sous ce beau soleil, c'est un très beau message.
Voilà, super, merci.
Bon Noël à vous.
Merci à vous aussi.
Merci. Nous posons maintenant quelques questions à Sandra, qui est bénévole à la Grange aux Parapluies, qui, je crois, participe depuis la première année, donc depuis l'année dernière, à cette opération des cadeaux et des boîtes solidaires.
Bonjour.
Bonjour Sandra. Donc, comment ça fonctionne concrètement, cette idée des cadeaux, des boîtes solidaires ?
Alors, l'idée, c'est de proposer à tous les gens dans le canton ou plus d'être solidaires et de faire un petit geste pour Noël, donc offrir pour Noël une boîte solidaire. Donc, c'est une boîte avec dedans quelque chose de chaud, quelque chose de bon, quelque chose pour jouer. Donc, ça peut, généralement, les gens mettent un petit jeu, un livre, une écharpe, quelque chose qui pourrait faire plaisir et puis un petit mot. dans un cadeau pour que les personnes aient un petit cadeau à ouvrir pour Noël.
Je crois qu'effectivement, ce témoignage montre bien que ici et maintenant, on peut avoir une vraie valeur dans le mot Noël.
Ouais.
Bon Noël à toi, Sandra, et puis merci.
Bonne fête.
On ne pouvait pas faire une émission de radio sur le don sans interviewer aujourd'hui Dominique, qui est président de l'unité locale Bresse-Revermont de la Croix-Rouge et qui est ici aujourd'hui avec la Grange au Parapluie pour une remise un peu spéciale en ce mois de décembre. Dominique, bonjour.
Bonjour. Oui, alors aujourd'hui, donc, la Grange au Parapluie s'est joint à nous pour la remise des cadeaux, donc ce qu'on appelle les boîtes à chaussures, qui ont été collectées dans plusieurs commerces du secteur. Donc nous sommes une bonne équipe, nous sommes une équipe de 16 bénévoles donc sur le secteur. L'unité locale Bresse-Revermont regroupe les bénévoles de Coligny, l'équipe de Coligny, l'équipe de Montrevel et l'équipe de Saint-Trivis-de-Courte. Ah, je voudrais aussi en profiter pour remercier quand même la communauté de communes qui nous met gracieusement donc, ses locaux à disposition et donc la commune aussi qui nous aide également.
C'est dans le concret de ce genre d'initiative qu'on voit ce qu'être solidaire veut dire et c'est important avant Noël. Dominique, merci à vous.
Tout à fait. Merci bien et bonne journée.
Et à très bientôt sur les ondes.
Allez, faut y aller. Allez, faut y aller.
Aujourd'hui, dans la rubrique « Un livre, une livre », c'est un film qui sera à l'honneur. Un film sorti en 2000, à la croisée du documentaire et de l'autobiographie. Un film réalisé par une femme. Oui, vous l'avez deviné, chère auditrice, chère auditeur de Radio B, je vous propose un gros plan sur les glaneurs et la glaneuse d'Agnès Varda. Notre glaneuse d'image nous montre les glaneuses du 19e siècle, immortalisées par François Millet ou Jules Breton, symbole de la peinture réaliste et d'une France rurale. Le glanage, pendant du don, est alors une pratique agricole et rurale qui consiste à récupérer, à grappiller des pommes, du raisin, du blé ou des pommes de terre laissées sur place après la récolte. S'agit-il d'un don de la nature, d'un don de la part d'un propriétaire terrien, d'une tolérance ? Agnès Varda pose sa caméra aussi sur les glaneurs contemporains. Elle choisit de faire le portrait de ces nombreux anonymes, hommes et femmes, jeunes et vieux, de la campagne ou de la ville, qui viennent à la fin des marchés récupérer les invendus, les invendables. Grâce à une succession de plans rapprochés qui mettent en valeur les gestes de ces hommes et de ces femmes, qui se baissent, ramassent et prennent des légumes, des fruits, du pain, du fromage ou de la viande, pour ainsi se nourrir. C'est sur du rap que ces images défilent à un rythme soutenu, reflet de l'actualité et de l'urgence de cette pratique contemporaine.
Se baisser, mais heureusement pas s'abaisser. Mais je dois t'avouer que quand je les vois se pencher, j'ai le cœur blessé. Ça me fait mal de les voir récupérer pour se nourrir. Obligé de ramasser de la nourriture, même en train de pourrir. Courir dans les marchés pour manger ce que les gens jettent. Ils guettent ce qui peut encore rester, même les restes. Ils récupèrent ce qui à nos yeux n'a plus de valeur et ramassent par terre avant les balayeurs. Pour nous, un bien peut-être pour eux beaucoup. Ils font le tour des quartiers pour.
Agnès Varda nous montre dans son documentaire cette économie du don qui permet la survie des plus démunis qui vivent du gaspillage inhérent à notre société de consommation. Le film dénonçait en 2000 les supermarchés qui interdisaient l'accès des invendus, des produits retirés des rayons car la date limite de consommation allait expirer, en les aspergeant d'eau de Javel. Le film, sa réalisatrice, ont œuvré à leur façon à l'adoption de la loi contre le gaspillage, votée le 3 février 2016, et qui oblige les enseignes à plusieurs choses, notamment à prévenir le gaspillage alimentaire, à donner les invendus propres à la consommation humaine à des associations ou à les valoriser dans l'alimentation animale. Enfin, ces invendus peuvent être utilisés à des fins énergétiques dans le compost ou la méthanisation. Alors, voyons une prochaine fois, ou en tout cas, nous serons curieux de savoir les choix qu'ont fait les grandes surfaces pour participer à cette obligation légale de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Je rassemble tous ces mots en un livre et je l'offre au monde. En retour, celui-ci me donne la richesse, la gloire et le silence. Mais que puis-je bien faire de cet argent? Et quel plaisir puis-je prendre à contribuer au progrès de la littérature? Je ne désire que ce que je n'aurais pas. Confirmation de ce que mes mots ont touché le cœur du monde.
Donner, c'est chouette. Redistribuer ce qui ne peut être consommé ou qui peut resservir est plus que louable. Et puis, ça donne bonne conscience, l'illusion d'avoir fait sa part. Pourtant, malgré la générosité, eh bien, il peut rester un sentiment de culpabilité. C'est donnant-donnant. Alors, pardon, mais on se demande si la pauvreté n'est pas maintenue pour pratiquer la charité. Car, pardon, mais quand on y pense, manger à sa faim, avoir un toit sur la tête, et des murs, et du chauffage, et l'accès à l'eau, à l'hygiène, quoi. Une vie sociale, enfin, une vie d'humain décente, ce ne serait pas plutôt un droit? Un droit de base? L'économiste Baptiste Milondo préconise le revenu inconditionnel. Les fondements de sa pensée, qui l'ont fait s'intéresser au revenu de base, concernent les inégalités. L'objectif premier du revenu inconditionnel est que personne ne doit être privé de l'accès aux biens et services de base nécessaires pour vivre. Vivre. Et si on partait sur un autre système économique où l'humain serait enfin au centre des préoccupations, où donner ne pallierait pas aux défaillances de notre système, serait-ce notre prochain sujet? Ou alors, peut-être qu'on parlera des femmes et de la chandeleur. Ce sera la surprise. À bientôt et merci Jimmy.
Briques et pavés,
l'émission qui dégrange.
Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien.
Briques et pavés, pour aujourd'hui, c'est terminé.
Retrouvez-nous en podcast sur le site de Radio B
ou sur le site de la Grange aux Parapluies.
Briques et pavés,
l'émission qui dégrange.